Chapitre 4. Face à face. 6 semaines après, un soir, j'avais donné congé à mon domestique. C'était la veille du 14 juillet. Il faisait une chaleur d'orage et l'idée de sortir ne me souriait guère. Les fenêtres de mon balcon ouvertes, ma lampe de travail allumée, je m'installai dans un fauteuil et, n'ayant pas encore lu les journaux, je me mis à les parcourir. Bien entendu, on y parlait d'Arsène Lupin. Depuis la tentative de meurtre dont le pauvre Isidore Beautrelet avait été victime, il ne s'était pas passé un jour sans qu'il fût question de l'affaire d'Ambrumésy. Une rubrique quotidienne lui était consacrée. Jamais l'opinion publique n'avait été surexcitée à ce point par une telle série d'événements précipités, de coups de théâtre inattendus et déconcertants. Monsieur Filleul, qui décidément acceptait avec une bonne foi méritoire son rôle subalterne, avait confié aux intervieweurs les exploits de son jeune conseiller pendant les 3 jours mémorables, de sorte que l'on pouvait se livrer aux suppositions les plus téméraires. On ne s'en privait pas. Spécialistes et techniciens du crime, romanciers et dramaturges, magistrats et anciens chefs de la sûreté, messieurs Lecoq retraité et Herlock Sholmès en herbe, chacun avait sa théorie et la délayait en copieux articles. Chacun reprenait et complétait l'instruction. Et tout cela sur la parole d'un enfant, d'Isidore Beautrelet, élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. Car vraiment, il fallait bien le dire, on possédait les éléments complets de la vérité. Le mystère, en quoi consistait-il? On connaissait la cachette où Arsène Lupin s'était réfugié et où il avait agonisé, et là-dessus, aucun doute. Le docteur Delattre, qui se retranchait toujours derrière le secret professionnel et qui se refusa à toute déposition, avoua cependant à ses intimes, dont le premier soin fut de parler, que c'était bien dans une crypte qu'il avait été amené, près d'un blessé que ses complices lui présentèrent sous le nom d'Arsène Lupin. Et comme dans cette même crypte, on avait retrouvé le cadavre d'Étienne de Vaudrex, lequel Étienne de Vaudrex était bel et bien Arsène Lupin, ainsi que l'instruction le prouva, l'identité d'Arsène Lupin et du blessé recevait encore là un supplément de démonstration. Donc, Lupin mort, le cadavre de Mademoiselle de Saint-Véran reconnu grâce à la gourmette qu'elle portait au poignet. Le drame était fini. Il ne l'était pas. Il ne l'était pour personne. Puisque Beautrelet avait dit le contraire. On ne savait point en quoi il n'était pas fini, mais sur la parole du jeune homme, le mystère demeurait entier. Le témoignage de la réalité ne prévalait pas contre l'affirmation d'un Beautrelet. Il y avait quelque chose que l'on ignorait, et ce quelque chose, on ne doutait point qu'il ne fût en mesure de l'expliquer victorieusement. Aussi, avec quelle anxiété on attendit au début les bulletins de santé que publiaient les médecins de Dieppe, auxquels le comte confia le malade. Quelle désolation durant les premiers jours quand on crut sa vie en danger. Et quel enthousiasme le matin où les journaux annoncèrent qu'il n'y avait plus rien à craindre. Les moindres détails passionnaient la foule. On s'attendrissait à le voir soigné par son vieux père, qu'une dépêche avait mandé en toute hâte. Et l'on admirait le dévouement de Mademoiselle de Gèvres qui passa des nuits au chevet du blessé. Après, ce fut la convalescence rapide et joyeuse. Enfin, on allait savoir. On saurait ce que Beautrelet avait promis de révéler à Monsieur Filleul et les mots définitifs que le couteau du criminel l'avait empêché de prononcer. Et l'on saurait aussi tout ce qui, en dehors du drame lui-même, demeurait impénétrable ou inaccessible aux efforts de la justice. Beautrelet libre, guéri de sa blessure, on aurait une certitude quelconque sur le sieur Arlington, l'énigmatique complice d'Arsène Lupin que l'on détenait toujours à la prison de la Santé. On apprendrait ce qu'était devenu, après le crime, le greffier Bredoux, cet autre complice dont l'audace avait été vraiment effarante. Beautrelet libre, on pourrait se faire une idée précise sur la disparition de Ganimard et sur l'enlèvement de Sholmès. Comment deux attentats de cette sorte avaient-ils pu se produire? Les détectives anglais, aussi bien que leurs collègues de France, ne possédaient aucun indice à ce sujet. Le dimanche de la Pentecôte, Ganimard n'était pas rentré chez lui. Le lundi non plus, et point d'avantage depuis 6 semaines. À Londres, le lundi de la Pentecôte, à 4 heures du soir, Herlock Sholmès prenait un cab pour se rendre à la gare. À peine était-il monté qu'il essayait de descendre, averti probablement du péril. Mais deux individus escaladaient la voiture à droite et à gauche, le renversaient et le maintenaient entre eux. Sous eux, plutôt, vu l'exiguïté du véhicule. Et cela devant 10 témoins qui n'avaient pas le temps de s'interposer. Le cab s'enfuit au galop. Après, rien. On ne savait rien. Et peut-être aussi, par Beautrelet, aurait-on l'explication complète du document, de ce papier mystérieux auquel le greffier Brédoux attachait assez d'importance pour le reprendre à coups de couteau à celui qui le possédait. Le problème de l'aiguille creuse, comme l'appelaient les innombrables Oedipes qui penchaient sur les chiffres et sur les points, tâchaient de leur trouver une signification. L'aiguille creuse. Association déconcertante de deux mots. Incompréhensible question que posait ce morceau de papier dont la provenance même était inconnue. Était-ce une expression insignifiante? Le rébus d'un écolier qui barbouille d'encre un coin de feuille? Ou bien était-ce deux mots magiques par lesquels toute la grande aventure de l'aventurier Lupin prendrait son véritable sens? On ne savait rien. On allait savoir. Depuis plusieurs jours, les feuilles annonçaient l'arrivée de Beautrelet. La lutte était près de recommencer. Et cette fois, implacable de la part du jeune homme qui brûlait de prendre sa revanche. Et justement, son nom en gros caractères attira mon attention. Le grand journal inscrivait en tête de ses colonnes la note suivante. « Nous avons obtenu de M. Isidore Beautrelet qu'il réserva la primeur de ses révélations. Demain, mercredi, avant même que la justice en soit informée, le grand journal publiera la vérité intégrale sur le drame d'Ambrumésie. Cela promet, hein? Qu'en pensez-vous, mon cher ?» Je sursautai dans mon fauteuil. Il y avait, près de moi, sur la chaise voisine, quelqu'un que je ne connaissais pas. Je me levai et cherchai une arme des yeux. Mais comme son attitude semblait tout à fait inoffensive, je me contins et m'approchai de lui. C'était un homme jeune, au visage énergique, aux longs cheveux blonds et dont la barbe, un peu fauve de nuances, se divisait en deux pointes courtes. Son costume rappelait le costume sobre d'un prêtre anglais, et toute sa personne, d'ailleurs, avait quelque chose d'austère et de grave qui inspirait le respect. « Qui êtes-vous ? » lui demandai-je. Et comme il ne répondait pas, je répétais « Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous entré ici ? Que venez-vous faire ?» Il me regarda et dit « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, non. C'est vraiment curieux. Cherchez bien un de vos amis, un ami d'un genre un peu spécial. » Je lui saisis le bras vivement. « Vous mentez. Vous n'êtes pas celui que vous dites. Ce n'est pas vrai. »
« Alors, pourquoi pensez-vous à celui-là plutôt qu'à un autre ?»
Ah, ce rire. Ce rire jeune et clair, dont l'ironie amusante m'avait si souvent diverti. Je frissonnais. Était-ce possible ? Non ! Non ! Protestai-je avec une sorte d'épouvante. « Il ne se peut pas !»«
Il ne se peut pas que ce soit moi, parce que je suis mort, hein ? Et que vous ne croyez pas au revenant.
Est-ce que je suis de ceux qui meurent, moi ? Mourir ainsi, d'une balle tirée dans le dos, par une jeune fille. Vraiment, c'est mal me juger. Comme si moi, je consentirais à une pareille fin.
C'est donc vous ? Je ne parviens pas à vous retrouver.
Alors, je suis tranquille. Si le seul homme à qui je me sois montré sous mon véritable aspect ne me reconnaît pas aujourd'hui, toute personne qui me verra désormais tel que je suis aujourd'hui ne me reconnaîtra pas non plus quand elle me verra sous mon réel aspect. Si tant est que j'ai un réel aspect.
Je retrouvais sa voix maintenant qu'il n'en changeait plus le timbre. Et je retrouvais ses yeux aussi, et l'expression de son visage, et toute son attitude, et son être lui-même à travers l'apparence dont il l'avait enveloppé.
Arsène Lupin.
Oui, Arsène Lupin, le seul et unique Lupin, retour du royaume des ombres, puisqu'il paraît que j'ai agonisé et trépassé dans une crypte. Arsène Lupin, vivant de toute sa vie, agissant de toute sa volonté, heureux et libre, et plus que jamais résolu à jouir de cette heureuse indépendance dans un monde où il n'a jusqu'ici rencontré que faveur et que privilège.
Je ris à mon tour. Allons, c'est bien vous, et plus allègre que le jour où j'ai eu le plaisir de vous voir l'an dernier. Je vous en complimente. Je faisais allusion à sa dernière visite, visite qui suivait la fameuse aventure du diadème, son mariage rompu, sa fuite avec Sonia Krichnoff et la mort horrible de la jeune Russe. Ce jour-là, j'avais vu un Arsène Lupin que j'ignorais, faible, abattu, les yeux las de pleurer, en quête d'un peu de sympathie et de tendresse.
« Taisez-vous, le passé est loin. »
C'était il y a un an.
C'était il y a 10 ans. Les années d'Arsène Lupin comptent 10 fois plus que les autres.
Je n'insistais pas, et changeons de conversation. Comment donc êtes-vous entré?
Mon Dieu, comme tout le monde, par la porte. Puis, ne voyant personne, j'ai traversé le salon, j'ai suivi le balcon, et me voici.
Soit, mais la clé de la porte.
Il n'y a pas de porte pour moi, vous le savez. J'avais besoin de votre appartement. Je suis entré.
À vos ordres, dois-je vous laisser?
Oh, nullement! Vous ne serez pas de trop. Je puis même vous dire que la soirée sera intéressante.
Vous attendez quelqu'un?
Oui, j'ai donné rendez-vous ici à 10 heures.
Il tira sa montre.
10 heures. Si le télégramme est arrivé, la personne ne tardera pas.
Le timbre retentit dans le vestibule.
« Que vous avais-je dit ? Non, ne vous dérangez pas, j'irai moi-même. »
« Avec qui, diable, pouvait-il avoir pris rendez-vous ? Et à quelle scène dramatique ou burlesque allais-je assister ? Pour que Lupin lui-même la considérât comme digne d'intérêt, il fallait que la situation fût quelque peu exceptionnelle. » Au bout d'un instant, il revint et s'effaça devant un jeune homme mince, grand et très pâle de visage. Sans une parole, avec une certaine solennité dans les gestes qui me troublaient, Lupin alluma toutes les lampes électriques. La pièce fut inondée de lumière. Alors, les deux hommes se regardèrent profondément, comme si, de tout l'effort de leurs yeux ardents, ils essayaient de pénétrer l'un dans l'autre. Et c'était un spectacle impressionnant que de les voir ainsi graves et silencieux. Mais qui donc pouvait être ce nouveau venu? Au moment même où j'étais sur le point de le deviner, par la ressemblance qu'il offrait avec une photographie récemment publiée, Lupin se tourna vers moi.
« Cher ami, je vous présente Monsieur Isidore Beautrelet. »
Et aussitôt, s'adressant au jeune homme,
« J'ai à vous remercier, Monsieur Beautrelet, d'abord d'avoir bien voulu, sur une lettre de moi, retarder vos révélations jusqu'après cette entrevue, et ensuite de m'avoir accordé cette entrevue avec tant de bonne grâce. »
Beautrelet sourit.
« Je vous prierai de remarquer que ma bonne grâce consiste surtout à obéir à vos ordres. La menace que vous me faisiez dans la lettre en question était d'autant plus péremptoire qu'elle ne s'adressait pas à moi, mais qu'elle visait mon père.
« Ma foi, on agit comme on peut !»
Il faut bien se servir des moyens d'action que l'on possède. Je savais par expérience que votre propre sûreté vous était indifférente, puisque vous avez résisté aux arguments du sieur Brédoux. Restez votre père, que vous affectionnez vivement. J'ai joué de cette corde-là.
Et me voici.
Je les fis asseoir. Ils y consentirent et Lupin, de ce ton d'imperceptible ironie qui lui est particulier,
« En tout cas, monsieur Beautrelet, si vous n'acceptez pas mes remerciements, vous ne repousserez pas du moins mes excuses. »«
Des excuses ?
Et pourquoi, seigneur ?»«
Pour la brutalité dont le sieur Brédoux a fait preuve à votre endroit. »«
J'avoue que l'acte m'a surpris. Ce n'était pas la manière d'agir habituelle à Lupin. Un coup de couteau ?»«
Aussi, n'y suis-je pour rien. » »«
Le sieur Brédoux est une nouvelle recrue. » Mes amis, pendant le temps qu'ils ont eu la direction de nos affaires, ont pensé qu'il pouvait nous être utile de gagner à notre cause le greffier même du juge qui menait l'instruction.